fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet. Bonjour Michel Valmet.
Bonjour Françoise Thirion.
Bonjour à vous, chers auditeurs de Jet FM, qui êtes fidèlement à l'écoute de notre émission hebdomadaire Fantômes et Merveilles. Émission sous-titrée aujourd'hui Vertige et Peau et Songe, ou plus exactement le Putsch de la rue d'Allonville.
Et car c'est avec grand plaisir, chers auditeurs, que nous allons converser durant plusieurs émissions avec Jean Giffant, qui est sur le point d'éditer un livre portant ce titre.
Mais tout d'abord, bonjour à vous.
Bonjour.
Jean Giffant.
Bonjour Jean Giffant.
Bonjour.
Or, si vous me le permettez, Monsieur Jean Giffant, pour commencer par le commencement, et ce pour mieux informer les auditeurs de Jet FM, prenons le temps d'une petite présentation.
Vous n'êtes pas d'origine nantaise, je crois.
Eh non, je suis de Rennes.
De Rennes.
La ville rivale, au niveau de la Bretagne, bien sûr. Parce que pour moi, Nantes est en Bretagne.
Mais oui. vraiment en Bretagne? Je pensais qu'il y avait des difficultés à...
Ben non, Nantes est historiquement en Bretagne, d'abord dans le duché de Bretagne, puis même après le ralliement en quelque sorte de la Bretagne à la France, et elle était en Bretagne jusque sous la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est que d'abord sous Pétain, puis après la Seconde Guerre mondiale, en 1955, qu'on a créé une région artificielle qui s'appelle les Pays de la Loire, dont Nantes est le chef-lieu. Et que la Bretagne désignée ainsi maintenant, c'est la Bretagne croupion, c'est-à-dire une Bretagne à quatre départements, alors que la Bretagne historique, je suis historien, la Bretagne historique, c'est bien cinq départements, y compris la Loire, d'abord inférieure, devenue atlantique.
Et vous êtes finalement arrivé à Nantes, mais comment ça? Pourquoi?
C'est quand j'étais reçu à l'agrément, disons que j'étais instituteur, et tout en étant instituteur, je préparais l'agrégation d'histoire. Et quand j'étais reçu à l'agrégation d'histoire, il fallait qu'on demande dans quelle région on voulait être. Et j'avais dit que je voulais être en Bretagne. Et on m'a envoyé à Nantes, qui prouve bien que Nantes est définitivement, j'allais dire pour moi, en Bretagne. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Nantes, au lycée Clémenceau, en ayant demandé la Bretagne après le concours d'agrégation.
Oui, mais en passant par Paris, parce que c'est à Paris que vous avez passé le concours d'agrégation, si je ne me trompe.
Bah oui, parce que mon père, donc je suis rennais, je suis né donc à Rennes, et j'ai fait mes études à Rennes, jusqu'à la mort de mon père, quand j'étais en sixième, j'avais 10 ans et demi. Et on n'est pas resté à Rennes, parce que ma mère a trouvé du travail à Paris, et je suis devenu malgré moi parisien, de la classe de 4e jusqu'à la terminale.
Parisien, vraiment, à l'intérieur de Paris.
J'étais banlieusard, en fait, dans le banlieue sud à Paris. Mais bon, j'étais dans la région parisienne et naturellement, je regrettais de ne plus être en Bretagne.
Et votre père, là, vous l'avez perdu assez jeune, je crois.
Oui, j'avais 10 ans et demi.
Oui, c'est ça, oui.
Oui, et donc, en plus, j'avais un jeune frère qui avait 8 ans de moins que moi, dont je m'occupais beaucoup, dont j'étais presque le second père, puisqu'on n'avait plus de père. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Paris. Et donc il fallait que je travaille à la radio, puisque j'avais des points d'avance sur tout concours. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je voulais être prof d'histoire. Mon frère, par contre, mon jeune frère, lui, est devenu, comme son père, ingénieur du son.
Jean Giffant, pardonnez-moi, mais c'est une très lourde histoire, je suppose. Mais je vais vous interrompre, on revient à tout ça, parce que nous allons bien entendu reprendre notre échange dans un instant, mais le temps est à présent venu d'une petite pause musicale. Or, je crois savoir que le répertoire populaire français, tout particulièrement, vous touche beaucoup. D'ailleurs, vous êtes un joueur d'accordéon et de piano, d'ailleurs.
Je suis d'abord un pianiste, mais quand je jouais dehors, C'est difficile de transporter un piano et je me suis mis aussi à l'accordéon à touche piano.
Et vous aimez chanter? Alors, nous avons choisi, Françoise et moi, une chanson de Georges Brassens. Je ne sais pas pourquoi, mais vous m'en parlerez après. Je ne sais pas si vous l'aimez beaucoup, cette chanson.
si, vous
je
aimez
vous cache
chanter.
Le titre. Allez.
non, mais Georges Brassens, tout particulièrement. Donc, alors, vous allez être surpris.
On écoute, c'est parti.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Nous sommes toujours dit cette chanson de Georges Brassens, très connue. Il s'agit, pour nos auditeurs qui ne la connaissent pas, n'est-ce pas, de la mauvaise réputation. Alors pourquoi cette chanson, tout particulièrement?
De toute façon, je suis un inconditionnel de Brassens et c'est une des toutes premières chansons de Brassens. J'ai eu l'occasion de faire, quand j'étais à l'école normale d'instituteur, un diplôme sur la poésie dans la chanson française. Et donc, ça m'a permis d'aller voir tous les grands de l'époque. J'ai connu Léo Ferré, j'ai connu Jacques Brel, j'ai connu Georges Brassens. Et donc, c'était la grande époque de la chanson française, alors que malheureusement, aujourd'hui, on n'entend que de l'anglo-américain.
Et pas mal comme itinéraire, quand même, d'avoir rencontré tous ces gens-là et de les avoir interprétés. Mais ce qui nous avait intéressé, j'avoue insidieusement, Françoise et moi, c'était que vous avez aussi un parcours, non pas simplement de poète ou d'amitié, d'amis des poètes, mais aussi vous étiez un militant et un historien. On va revenir sur le côté militant, parce que si je me souviens bien, vous avez été nommé finalement à Nantes comme professeur.
Oui.
Et particulièrement à Clémenceau, non?
Oui, j'ai Clémenceau dès le départ.
Hein, pardon?
Non, j'ai commencé dès le départ et jusqu'au bout, j'ai fait toute ma carrière au lycée Clémenceau à Nantes. En plus, j'étais chargé de cours à la fac, mais, oui. Mais l'essentiel de mon parcours, ça a été le lycée Clémenceau. J'ai eu la chance d'abord d'avoir une classe de préparation grandes écoles, c'est-à-dire HEC, puis très rapidement l'aide sup, puis première sup. Donc j'ai fait toute ma carrière dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
Oui, c'était surtout l'histoire que vous enseignez.
Ah oui, très rapidement, sauf à HEC où je faisais de l'économie. Dès que j'ai fait l'aide sup et première sup, je ne faisais plus que de l'histoire.
Et vous avez écrit d'ailleurs un livre sur le lycée Clémenceau.
Oui. Quand il y a eu le bicentenaire du lycée Clémenceau, j'ai écrit deux fois l'histoire du lycée Clémenceau.
Ah oui. Oh là là, pour les spécialistes nantais et qui sont passés par le lycée Clémenceau, c'est un livre. On peut encore le trouver?
Oui, il avait été édité par Coiffard, qui est une édition nantaise. Je pense qu'il en reste encore quelques-uns, puis on le trouve facilement dans les bibliothèques.
Mais vous étiez militant en même temps. Militant, pourquoi militant? C'est l'histoire qui vous a emmené ou c'est la poésie?
C'est quand même l'histoire. J'étais militant quand j'étais instituteur d'une part et étudiant à la Sorbonne. Et c'était le moment de la guerre d'Algérie.
Ah, la guerre d'Algérie.
Donc comme étudiant, j'étais à l'UNEF. Et on militait pour contre la guerre d'Algérie, pour mettre la fin à la guerre d'Algérie. Donc j'ai d'abord été militant à l'UNEF, j'étais en même temps militant au syndicat national des instituteurs, puisque j'étais instituteur. Mais c'est ce qui m'a éveillé à la politique, hein. C'est la lutte pour la décolonisation. Et j'allais dire qu'indirectement, c'est un peu pour ça peut-être que je me suis intéressé après à ce qui a été ma grande passion historique, ça a été l'Irlande. Parce que l'Irlande a été aussi une ancienne colonie, une colonie anglaise.
Oui, parce que finalement, si l'Irlande existe comme elle est, c'est parce qu'il y a eu cette colonisation de ce pays qui maintenant s'appelle l'Irlande. Et voilà. Et donc c'est un des premiers pays à être colonisé.
Par les Anglais, on peut
dire. Par les Anglais.
Oui, quand on parle colonie, on pense toujours à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique latine, qui ont été des colonies. Et on a oublié une chose. C'est que la première colonie au monde, avec tous les ingrédients du colonialisme, c'est-à-dire perte du pouvoir politique, perte du pouvoir économique, perte du pouvoir culturel, la première colonie au monde a été l'Irlande, qui a été une colonie anglaise, hein, dès le Moyen-Âge, et puis plus encore après, à l'époque moderne. Hein, et ça a été l'Irlande, c'est-à-dire que le premier pays colonisé a été un pays européen, c'est l'Irlande qui a été colonisée par la Grande-Bretagne.
Oui, ça, on ne le sait pas toujours. Hein.
Non, ça, c'est malheureusement pas assez dit dans les manuels d'histoire.
Il y a des restes, quand même. Il y a des restes de cette colonisation.
Oui, il y a des restes, puisque toute l'Irlande, aujourd'hui, n'est pas décolonisée, hein, puisqu'elle a réussi à se demi-décoloniser au lendemain de la Première Guerre mondiale, et il y a eu la création de la République, de l'État libre d'Irlande, qui après s'est appelé l'AIRE, que improprement on appelle encore parfois l'AIRE, et qui est devenue une république d'Irlande au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1947-48. Et j'insiste beaucoup sur le mot république d'Irlande, parce que ça veut dire que république d'Irlande, ça veut dire qu'il ne fait plus partie du Royaume-Uni. Une différence entre république et royaume, sauf l'Irlande du Nord. Parce que dès effectivement la partition qui a eu lieu au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Irlande du Nord, où il y avait une majorité de protestants, a voulu rester dans le Royaume-Uni. Et à ce moment-là, donc, le Royaume-Uni, qui s'appelait autrefois Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, s'appelle depuis, comme aujourd'hui, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Alors, dans l'Irlande du Nord, on parle l'anglais.
On parle aussi, malheureusement, l'anglais en Irlande du Sud aujourd'hui.
Ah, c'est ça que je voulais vous faire dire.
Normalement, la première langue officielle, c'est le gaélique d'Irlande, et le gaélique est obligatoire à l'école. Malheureusement, si vous allez en Irlande, sauf dans certaines régions qui s'appellent les Galtesh, hein, où on privilégie la langue irlandaise, eh bien, en Irlande, vous n'entendez parler que uniquement anglais, alors que c'est obligatoire à l'école.
On va forcément revenir sur tout ça. Leur tourne.
Oui, on va revenir la semaine prochaine sur la vie passionnante de Monsieur Jean Guiffon, que nous recevons pour quelques émissions. Ah si, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs ont oublié ce passé présent et ce passé qui nous revient quand même dans l'actualité. Nous allons dire au revoir à Monsieur Jean Guiffon et nous revoir la semaine prochaine. Au revoir à tous, chers auditeurs de JTFM. Au revoir Michel Valmer.
Au revoir Françoise, au revoir Jean Guiffon.
Fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Françoise Thirion et Michel Valmer.